Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran et l'Indonésie se prononcent en faveur du développement de la coopération bilatérale. Téhéran appelle l'ONU à faire face aux effets négatifs des sanctions. Trois Israéliens ont été tués dans une opération à l'arme blanche. La Russie a effectué, en fait, a simulé, pardon, des tirs de missiles à capacité nucléaire. Le PAM affirme que l'insécurité alimentaire s'aggrave rapidement en Afrique de l'Est. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Les présidents iraniens et indonésiens se sont entretenus au téléphone de la coopération bilatérale et des questions d'intérêt des communs. Lors de cette conversation téléphonique, le président iranien, se référant aux capacités, aux diverses capacités des deux pays, a souligné, en travaillant ensemble pour réaliser de ces capacités, les relations entre les deux pays peuvent être développées dans tous les domaines. La La République islamique d'Iran cherche à renforcer ses relations avec, en fait, des pays ses amis, tant au niveau régional qu'international. Dans une autre partie de cette conversation téléphonique, le président Raïsi, faisant référence à l'importance de la question palestinienne dans le monde islamique, a déclaré « Les pays islamiques doivent être cohérents et unis dans la défense des luttes menées par le peuple palestinien ». Lors de cette conversation téléphonique, le président indonésien Joko Widodo a félicité le président et le peuple iranien, insistant sur, en fait, l'intérêt de son pays à développer la coopération bilatérale, régionale et internationale avec la République islamique d'Iran, notamment dans le domaine de l'énergie et de la santé. En plus des points communs culturels, l'Iran et l'Indonésie ont des points de vue proches sur les questions régionales et internationales et de tous deux soutiennent les causes du peuple palestinien, a-t-il souligné. Téhéran appelle à l'ONU à faire face aux effets négatifs des sanctions. En qualifiant les sanctions de contraires aux principes du droit international et du droit humanitaire de la Charte des Nations Unies, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a appelé à la poursuite des efforts du département des communications mondiales des Nations Unies pour faire face aux effets négatifs des sanctions imposées contre les pays et les nations. Dans un discours devant la commission du renseignement de l'Assemblée générale des Nations Unies, Majid Tarsehravanchi, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, a condamné les sanctions unilatérales et illégales imposées contre les pays et les nations et a déclaré « Les sanctions ont exacerbé les problèmes économiques, commerciaux et financiers des pays sous sanctions et ont entravé l'accès aux équipements médicaux et aux matières premières en affaiblissant leur croissance économique et en restreignant l'accès aux financements étrangers. » Le haut diplomate de la République islamique d'Iran a déclaré que malheureusement, certains pays continuaient d'utiliser leur technologie de communication moderne propriétaire pour déformer et falsifier les réalités d'autres pays, en particulier des pays en développement, et ainsi ternir l'image et les intérêts de ces pays. Cette situation défavorable doit attirer immédiatement l'attention de la communauté internationale. Se référant au phénomène croissant de l'islamophobie en Occident, Tarsehravanchi a indiqué l'atmosphère de haine envers l'islam et les musulmans dans le monde qui est provoquée par les médias anti-islamiques et la rhétorique provocatrice et fanatique de certaines personnalités politiques occidentales est un sujet de grande préoccupation. Il est temps que la communauté internationale condamne le phénomène de l'islamophobie et prenne les mesures nécessaires pour combattre l'islamophobie et la violation des droits fondamentaux des musulmans, a-t-il ajouté. Au moins trois personnes ont été tuées chez jeudi soir, 5 mai, lors d'une opération à l'arme blanche dans la colonie d'Ilad, dans le centre de l'entité sioniste. Dernière attaque en date visant Israël qui célèbre le 74e anniversaire de sa création ou l'usurpation de la Palestine. Selon les services de secours israéliens, quatre autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans cette attaque survenue dans la colonie d'Elat, qui compte environ 50 000 colons, dont de nombreux de juifs ultra-orthodoxes. Dans un communiqué, la police d'occupation n'a donné aucune précision sur l'identité des auteurs de cette attaque, ni sur les circonstances de l'attaque. Il s'agit de la sixième opération anti-occupation depuis le 22 mars dernier. Ces opérations, dont certaines ont été menées par des Palestiniens originaires des territoires occupés en 1948, ont fait 18 morts au total, en incluant ceux de jeudi soir à Eilat. Les factions de la résistance palestinienne ont salué cette opération héroïque qui constitue une riposte naturelle au crime de l'occupation contre les Palestiniens, toujours selon ces factions de résistance palestinienne. Nous continuerons de lutter pour mettre en échec le plan colonial et des turbines éoliennes, soulignent les Golanais. Les habitants du Golan syrien occupé ont réitéré la poursuite de leur lutte contre l'occupation israélienne pour mettre en échec son plan colonial visant à installer des turbines éoliennes sur plus de 4000 de terres agricoles. Lors d'une réunion tenue dans le sanctuaire d'Abu Zar al-Rifari, dans la zone d'Al-Majred, entre les deux villages occupés de Masada et Majdal-Shams, les Golanais ont indiqué que l'occupation tente par tous les moyens à mettre en œuvre son plan sur leur terre agricole, soulignant qu'après avoir épuisé tous les moyens, les Golanais n'ont pas de choix que la confrontation sur le terrain pour avorter le projet, quels que soient les sacrifices. Moscou a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne. Les forces russes ont procédé à des frappes uniques et multiples sur des cibles qui simulaient des lanceurs de systèmes de missiles, des aérodromes, des infrastructures protégées, des équipements militaires et des postes de commandement d'un ennemi fictif, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. L'insécurité alimentaire s'aggrave rapidement en Afrique de l'Est, à l'heure qu'on estime à 81,6 millions le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, y compris des personnes déplacées, des réfugiés, des communautés d'accueil dans les zones rurales et urbaines, a averti jeudi le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le PAM, dans sa mise à jour périodique de la situation, a déclaré que l'aggravation rapide de la situation représentait une hausse d'environ 39% par rapport aux 58,6 millions de personnes enregistrées en novembre dernier. La situation globale en matière d'insécurité alimentaire devrait s'aggraver dans la plupart des pays de la région pendant la saison maigre, tout en faisant face à des chocs multiples et des superposés. Les sécheresses, les inondations, les défis macroéconomiques et les conflits, selon le PAM. L'agence onusienne a averti que la situation nutritionnelle de la région était critique, avec environ 7 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans qui seraient gravement malnutris en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, dont plus de 1,7 million avec malnutrition sévère aiguë. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous, nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Les États-Unis tuent-ils les généraux russes? Ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Les États-Unis ont fourni des renseignements sur les unités des Russes qui ont permis à l'armée ukrainienne de prendre pour cible de nombreux des généraux russes qui ont péri lors des combats en Ukraine, a révélé mercredi le New York Times, citant un haut responsable américain. Washington a fourni à l'Ukraine des détails sur les mouvements des troupes russes prévues à Kiev, ainsi que d'autres détails sur les quartiers généraux militaires mobiles. Ayant regroupé les renseignements avec les siens, l'Ukraine a mené des frappes d'artillerie et d'autres attaques qui se sont soldées par la mort des officiers russes, a indiqué toujours le journal. Les responsables ukrainiens ont affirmé avoir tué environ 12 généraux russes sur le champ de bataille, précise le New York Times. Les responsables américains, ajoutent le journal, ont refusé de préciser combien de généraux avaient été tués par le biais des renseignements fournis par les États-Unis à l'Ukraine. La nouvelle intervient alors que les États-Unis ont formé plus de 23 000 soldats ukrainiens entre 2015 et 2022 dans le cadre d'un programme qui a coûté quelque 126 millions de dollars au Pentagone, a déclaré de mercredi le général de brigade américain Joseph Hilbert, révélant les tentatives de longue date de Washington d'étendre son hégémonie dans la région. D'ailleurs, un haut responsable du Pentagone a fait état de la livraison de 90% des mortiers prévus dans le plan d'aide à l'Ukraine, et ce alors que la Russie a averti à plusieurs reprises qu'elle se réservait le droit de prendre pour cible les expéditions occidentales de matériel militaire vers l'Ukraine. Évoquant le pompage d'armes à l'Ukraine par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, le ministre russe de la Défense, Sergueï Chouïgou, a déclaré que tout transfert d'armes vers l'Ukraine était considéré par la Russie comme une cible légitime à détruire. C'est dans un tel contexte que Moscou a affirmé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad à la frontière avec l'Union européenne. Après avoir envoyé des troupes en Ukraine fin février, le président russe Vladimir Poutine a proféré des menaces à peine voilées sur la volonté de la Russie de déployer des armes nucléaires tactiques. Cette annonce intervient au 70e jour de l'intervention russe en Ukraine. Lors des manœuvres militaires dans l'enclave Kaliningrad en mer Baltique, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne, la Russie a simulé des lancements électroniques de systèmes de missiles balistiques mobiles et des Iskander à capacité nucléaire, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les forces russes ont procédé à des frappes uniques et multiples sur des cibles qui simulaient des lanceurs de systèmes de missiles, des aérodromes, des infrastructures protégées, des équipements militaires et des postes de commandement d'un ennemi fictif, a précisé encore le communiqué.